11h37 minutes. Mettons que ça fait contraste aujourd'hui avec la flotte qu'on a eue en fin de semaine. On a presque eu du soleil tantôt, Audrey.
Il faut que tu le dises vite, là.
Ouais. Ben, ça va être ça pas mal toute la journée. On a quoi, un 40% de probabilité d'averse pour ce qui est d'aujourd'hui ce soir? Ce sera un ciel dégagé, minimum de 6 degrés, un maximum de 19 pour ce qui est d'aujourd'hui. Demain, mardi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23. Mercredi, ensoleillé avec un maximum de 26. Jeudi, des averses maximum de 27. Et vendredi, ce sera de la pluie avec un maximum de 22. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. 418-971-1021. 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Puis si ça vous tente de nous poser des questions aussi par rapport à l'entrevue qu'on va faire dans les prochaines secondes, ben, par texto, ça se fait bien. Puis on aime bien vous impliquer dans le processus. On a le plaisir d'accueillir en studio Marie-Ève Garneau, qui est en congé aujourd'hui. Elle est thanatologue, propriétaire du groupe Garneau et enseignante en thanatologie. Salut Marie-Ève.
Bonjour.
Merci d'être là pendant ta journée de congé.
Et merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir.
Ah, c'est fait fort ça, ces thanatologues là, hein? C'est fait fort, ça travaille même quand c'est en congé. Mon premier réflexe, c'est de te poser la question que Audrey m'a posée tantôt. T'sais, de quoi ça a l'air une thanatologue ou un thanatologue? T'sais? On dirait qu'au secondaire, les thanatologues, tu savais... C'était qui en les regardant? Vers où est-ce qu'elle allait se diriger? Puis s'il disait, ben moi, je vais là en thanatologie. Ben, il était tout habillé en noir, premièrement. Là. Ben, c'était pas une surprise. Là, je te regarde, t'es une femme d'affaires, t'es une grande fille, t'as de l'air, t'as pas de l'air d'une thanatologue.
Ben, tant mieux, je vais le prendre comme un compliment parce que c'est pas nécessairement ce que je voudrais avoir là. Puis c'est vrai, là, je me souviens moi-même, mon père est thanatologue, on habitait en face de l'école primaire.
Ouais.
Il y avait comme une espèce de décorum aujourd'hui qui est un peu différent. Mais à la base, je pense qu'on s'imaginait un peu tous l'espèce de croque-mort dans Lucky Luke.
Oui, vraiment.
Exact.
C'est l'image qu'on avait d'eux parce que c'est ce qui était le plus proche de ce qu'on voyait en dehors de la réalité. Donc, c'est sûr que ça a grandement évolué. Puis si je dis même aujourd'hui, quand les gens passent chez nous, tu sais, on essaie de mettre un peu de vie malgré tout dans tout ça. Là.
Ben ouais. Mm-hmm.
Parce que déjà, c'est difficile pour ceux qui viennent nous voir, c'est pas par choix. Hein? Habituellement, ouais. ils nous choisissent, mais c'est pas un choix d'être rendu là. Donc, si on peut rendre ça un peu plus facile, c'est pas en ayant l'air plus pesant puis plus triste qu'eux qu'on va aider à la situation.
Exact. Puis on se souvient tous des endroits où on a été pour dire un dernier au revoir. Puis ce qui nous marque souvent, c'est le professionnalisme des gens qui sont en place, la gentillesse des gens qui sont en place, la beauté des lieux, le respect du défunt, comment le défunt a été préparé. C'est vrai que ça, c'est un souvenir qui va toujours rester dans notre tête, ça.
Absolument. Par contre, avec les années, moi, j'ai changé un peu mon discours.
Ah oui?
Honnêtement, parce qu'avant, on disait beaucoup, c'est très basé sur le catholicisme, là, on est tous des Thomas, il faut le voir pour le croire.
Ouais.
Maintenant, je dis, il faut le croire pour se l'approprier. Il faut le voir pour se l'approprier, parce que le croire, notre cerveau, comment il est conçu, je pense que même après des fois, des mois, des années, on a quand même toujours l'impression, même si on les a vus là, dans leur cercueil ou peu importe, qu'ils vont revenir, ou on a le réflexe de « Ah, je vais l'appeler, j'ai quelque chose à y raconter. » Alors, il faut le voir pour le croire. Moi, j'ai modifié cette espèce de façon de dire et de voir les choses. Je dis « Il faut le voir pour s'approprier que cette vie-là est terminée. » Mais effectivement, tu sais, je pense qu'il y a un paquet d'autres étapes qui sont toutes mises en place à l'intérieur de ça pour être capable d'en arriver là.
Tu disais, Marie-Ève, que ton père était thanatologue. On a aussi ce préjugé-là que c'est absolument familial parce que qui de nulle part voudrait être thanatologue?
J'adore cette question-là parce que je suis la première à dire ça. Moi, je suis la quatrième génération chez moi dans la famille.
Wow.
J'ai mon neveu, Raphaël, qui s'est joint à nous il y a déjà quelques années. J'ai ma fille qui s'en va étudier là-dedans l'année prochaine. C'est une espèce de normalité, là, je pense. Je m'étais déjà fait dire qu'il y a des domaines comme ça où ça s'appelle la transvocation. Ça se passe d'une génération à l'autre. C'est tout à fait normal parce qu'on a grandi là-dedans, on ne connaît pas autre chose.
Ouais.
Mais oui, ce que j'appelle pour moi les bizarres, il y en a de plus en plus. Mon mari en est un.
Un bizarre?
Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout du domaine. Son père ouais. faisait des autos chez GM. En Ontario.
Okay.
Ça n'a rien à voir. T'sais, le mari à ma soeur aussi, sa famille travaillait pour une commission scolaire. Pourquoi ces gens-là, tout d'un coup, du jour au lendemain, se disent Moi, j'ai envie de faire ça dans la vie. Je trouve ça toujours drôle. Ouais. Puis c'est la première question que je pose maintenant à mes étudiants quand je les rencontre en début de session. C'est, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'est quoi vos motivations? C'est quoi les réelles raisons derrière ça? Parce que au-delà de la fascination que beaucoup ont, parce que c'est quand même un domaine qui est gardé caché, qui est tabou, ben il faut qu'il y ait d'autres raisons. Là, sinon, on ne fera pas une carrière là-dedans.
T'as des cohortes de bizarres.
Ah, il y en a que oui, mais moi, je dis mes différents, mais ça a aussi beaucoup changé. Maintenant, je sais qu'il y a certains milieux d'éducation où ils vont faire un peu comme pour les médecins, des entrevues, pour s'assurer justement que les gens sont là pour les bonnes raisons, là, puis que c'est pas juste une question de notes ou de mauvaise fascination.
Mmh. Comment tu introduis ça à tes enfants? Parce que tu dis, là, ma fille s'en va étudier là-dedans aussi. Tu sais, je suis curieuse parce que tu dis, ça fait 4 générations. Fait que toi, t'as été introduit à ça probablement jeune par la force des choses. Ta fille a été introduite à ça probablement jeune. On parle quand même de, tu sais, de mort. Là, moi, je me vois pas d'un matin être introduite à un corps mort. C'est pas quelque chose qui fait partie de mon entourage à moi. Fait que je suis quand même curieuse de voir comment ça se transmet. Là.
Ce qui est très différent de moi à mes enfants, c'est que la loi, elle est extrêmement changée. À l'époque, moi, quand j'étais enfant, la maison funéraire, elle était dans ma maison, comme le film L'été de mes 11 ans. Là.
Ouais.
Ça se passait chez nous.
Dans le sous-sol.
Oui. Et puis mon père, moi, a acheté 10 mois avant que j'arrive. Donc, j'ai jamais connu autre chose. D'ailleurs, on va fêter nos 45 ans là, cet été. Je viens de dire que j'étais un petit peu vieille. donc, tu sais, par effet d'un découle dans l'autre, pour voir mon père, on n'avait comme pas le choix. Là. Lui, il était pratiquement seul d'employé. C'était des petites entreprises. Il travaillait 24 heures sur 24. Les gens venaient cogner à la porte la nuit pour nous dire « j'ai quelqu'un de décédé ».
Ah oui.
Moi, je me souviens là, d'entendre à 3 heures du matin cogner, puis lui, il se lève là, comme s'il attendait quelqu'un, lui, au bord de la table, puis il va répondre, il prend le décès, puis il s'occupe d'eux. Là. Ça a énormément changé. C'est plus comme ça. Maintenant, les entreprises funéraires, pour la plupart, ne sont plus dans nos maisons, quoique ça peut arriver parfois en région. Pour ce qui est de nos enfants maintenant, la loi s'est tellement resserrée qu'évidemment, il y a des choses auxquelles ils ne peuvent pas être soumis, qu'ils ne peuvent pas voir. Moi, ma fille, elle faisait pas ce que moi je faisais, c'est-à-dire ouvrir la porte du laboratoire pour dire à mon père que le souper était prêt. T'sais.
Puis il y a quelqu'un sur la table.
Exactement.
T'as-tu été introduite jeune, ça, à voir la mort?
Absolument. Moi, à l'âge de 2 ans, je voyais ça.
OK. Puis ça t'a jamais effrayé parce que pour toi, c'était naturel.
C'était la normalité.
C'est ça, exact.
T'sais, mon père, je me souviens... vu qu'on habitait en face de l'école primaire, il était souvent invité à faire des conférences. Excusez-moi. Et il disait aux gens, super banal, lui, même si j'avais été électricien, mes enfants auraient été habitués avec des fils électriques. Ben, je suis thanatologue. Mon milieu de travail, mon matériel de travail, ben, c'est des défunts, donc mes enfants sont habitués à ça. Puis lui aussi, là, c'était comme ça. Là, et lui-même, c'est pire encore. Là, je veux dire, il est venu au monde au 2e étage de la maison funéraire parce que les madames accouchaient dans leur maison. Là. Donc, mon père est né dans un salon funéraire.
Ah, c'est ça, aussi. Il est exposé aussi. Là, tu parlais de ta fille. Je suis curieuse juste que tu termines ce que tu disais par rapport aux lois qui ont changé.
Eux, ils ne l'ont pas vu de la même façon. Par contre, on a des horaires vraiment atypiques. Comme je disais, mon conjoint fait le même métier que nous. Donc, on n'a comme pas le choix. Là. Des fois, on retourne le soir, on habite à moins d'un kilomètre du bureau. On a quelque chose à faire, on a un dossier qui n'est pas fini, quelque chose qui est urgent pour demain, on ne veut pas manquer ça. Bien, on prend tous les enfants, on les met dans l'auto, puis on va au bureau. Là. Surtout quand ils étaient petits, là, maintenant, c'est bien différent parce que Kennedy pourrait les garder, les enfants les plus jeunes, quand on part, et c'est plus la même chose. Mais petite, là, elle était confrontée déjà à passer dans les corridors, elle voyait les cercueils, les contenants de crémation, elle nous demandait est-ce qu'il y avait des gens dedans, est-ce que... puis ça a toujours été très clair. Nous, on a toujours travaillé avec des spécialistes de deuil jeunesse qui nous disaient... Un enfant, tu lui dis les vrais mots, tu lui parles avec la réalité telle qu'elle est. Il n'y a pas de dodo, il n'y a pas de... Cette personne-là se repose. Cette personne-là, elle est morte. Et moi, mes enfants savent ça et se sont appropriés ce concept-là super tôt.
Okay. Comment ça a été le secondaire pour toi? C'était-tu facile? T'étais la fille du croque-mort?
Oui, effectivement. Ouais. Mais c'était facile parce que j'ai toujours quand même eu une personnalité forte puis un caractère fort. Donc, c'est sûr que personne ne pouvait m'intimider avec ça. Je n'aurais pas laissé faire ça sous aucune considération. Et au contraire, je pense que tout le monde, justement, se disait « Hey, ça, c'est eux autres, qu'est-ce qui se passe dans leur maison? » Parce que jusqu'en 2000, on a habité le salon funéraire. Donc, ce qui était difficile, c'est quand j'étais au primaire. L'école était en face, les petits amis ne voulaient pas venir jouer chez nous.
Ah non, il y avait peur.
Ben non, ils voyaient le corbillard rentrer dans la cour, sortir, tout ça pour eux autres, venir jouer là. Ils savaient que si on jouait à cachette, ultimement, j'allais aller me cacher dans la salle de cercueil. Là. parce que personne n'aime chercher là. Mais...
donc, tu gagnais à tout coup,
ben
toi,
oui,
là.
Oui, oui, ça, c'est un truc que ma sœur m'avait enseigné.
Mais t'aurais pu faire une mini-série, une télé-réalité chez toi. Vous seriez devenu milliardaire.
Ah, moi, je dis toujours, si on écrivait une série, là, il faudrait que ça s'appelle « Confession d'une menteuse qui disait la vérité » parce que les gens ne nous croiraient pas. Alors... Il se passe tellement de choses, c'est tellement particulier. On a tellement d'anecdotes aussi qui nous sont apportées de par notre métier, mais de par aussi tout ce qui vient avec, parce qu'on essaie de s'impliquer énormément dans notre communauté.
Ouais.
Donc, plus tu connais de gens, bien évidemment, plus il y a de chances qu'il arrive quelque chose.
Exact.
Donc, oui, effectivement, je pense qu'on aurait du matériel pour faire quelques saisons, puis peut-être même une quotidienne.
Ouais. mais là, je t'ai donné l'idée, fait que je charge 10%, peu importe ce que tu vas faire.
Mais je vais être la première auditrice ou spectatrice, ça, c'est sûr. Là.
Fait que toi, tu allais te cacher, quand tu jouais à cachette avec les autres, tu allais te cacher dans la salle où il y avait les défunts.
Oui, puis on avait beaucoup d'amis qui restaient devant la porte, puis qui disait « Je sais que t'es caché là, je rentrerai pas, fait que tu peux sortir, t'as gagné. »
Ah, c'est drôle. T'as-tu déjà eu envie de faire autre chose, Marie-Ève, ou ça allait juste de soi?
Ah non, j'ai toujours voulu faire autre chose.
Ah oh, ouais?
Oui. Oui, je voulais pas faire ça parce que... et là, il faut que je fasse attention de la façon que je vais le verbaliser. C'est un métier qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, en plus, on est une entreprise familiale. Mon père a toujours dit « C'est notre famille au service de la vôtre. » Et des fois, je trouvais que justement, ça prenait trop de place et que notre famille passait deuxième. Parce que je me souviens, là, moi, mon père prenait très peu de congés. Il y avait beaucoup moins d'employés, c'était moins gros. On était à l'Aquarium de Québec, à un moment donné, le téléphone sonne, puis c'était les immenses cellulaires qui ne rentraient pas dans une poche. Et là, il dit, ben, faut que je m'en aille, il y a un décès. Ça fait 15 minutes qu'on est arrivé, là. Alors ça, quand j'étais enfant, moi, ça me brimait, et je ne voulais pas faire vivre ça à ma famille. Maintenant, avec le temps, c'est arrivé un paquet de choses où j'ai fait, je suis vraiment fit. Fondamentalement, au fond de mon ADN pour faire ça, ce besoin-là d'être utile, de pouvoir prendre soin, ce privilège-là, moi, c'est ce que ouais. Je dis, là. Tu sais, tantôt, je disais, les gens viennent pas chez nous par choix, mais il y en a d'autres maisons funéraires, c'est moi qui choisisse.
Ouais.
Donc, le privilège qu'ils m'accordent, parce que je dis toujours, c'est un trésor que les gens nous confient. C'est un corps qu'ils aiment et qui est complètement sans défense. Alors, c'est un trésor. Alors, si vous me choisissez, moi, je vais honorer ce trésor-là et je vais vous montrer que vous avez fait le bon choix. Et tous les jours, il n'y a pas une journée où on ne se sent pas, je pense, et toute mon équipe aussi, on se sent extrêmement important puis investi de ça, là.
C'est quoi ton day-to-day? C'est parce que je pense que c'est dur à imaginer pour les gens qui ne sont pas en contact avec ça. En fait, je pense que la majorité des gens souhaitent le moins possible avoir de contact avec vous si on se dit les vraies choses, hein?
Effectivement.
Avec amour, évidemment, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Fait que ça ressemble à quoi, toi? Parce que là, t'es thanatologue, mais t'es propriétaire du groupe Garneau. T'es enseignante aussi ouais. En thanatologie. Fait que ça ressemble à quoi tes journées, Marie-Ève, dans une semaine?
D'abord, c'est une des raisons pour laquelle j'aime autant ce métier-là et que je veux faire ça pour toujours, c'est que je ne sais jamais ce qu'il y a de même réserve. Cette espèce d'effet-là où est-ce que demain, on va être super occupé, est-ce que ça va être plus tranquille? Il n'y a pas deux journées pareilles, il n'y a pas deux familles pareilles. Donc, c'est impossible qu'il y ait une répétition, une redondance. Ça, pour moi, c'est hyper stimulant parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime être bien et confortable dans mes souliers. Justement, c'est un peu pour ça aussi que j'ai commencé à enseigner. Cette opportunité-là est arrivée parce que le CNDF ont parti un nouveau programme il y a 3 ans. Il y avait déjà l'AEC en service funéraire, service conseil, mais la thanatologie était seulement au Collège de Rosemont. Et ben, par la proximité, CNDF, Lévis, moi, ils m'ont approché, j'ai dit oui. Mes amis et tout le monde qui me connaissent rient toujours en me disant « Toi, c'est sûr que si tu as 2 heures de libre dans la journée, tu vas boucher le trou peu importe comment. » Ben oui, effectivement. Je veux dire, j'ai 4 enfants, j'ai l'enseignement, j'ai le bureau, j'ai tout ça, j'ai mes parents. Oui, je vais essayer de remplir tous les trous inimaginables jusqu'à temps que je m'endorme. Mais ça ressemble à quoi? Ça dépend vraiment des appels qu'on va recevoir. Tu sais, la semaine passée, puis c'est ce que je dis. Moi, je peux pas avoir un comptable qui est super ferme puis qui me dit, cette année, on va budgéter ça puis on va faire ça. C'est pas moi qui décide. Est-ce qu'il va avoir 5 décès aujourd'hui? Après ça, je vais être une semaine où il n'y en aura pas. Je ne le sais pas. Donc, on va en fonction de... C'est sûr que dans les dernières années, moi, je me suis concentrée beaucoup plus à la gestion de l'entreprise. J'ai pas eu le choix avec le décès de ma sœur et tout ce qui est arrivé parce que les deux, on reprenait l'entreprise familiale. Oui, mon père est encore dans le décor. Là, théoriquement, c'est lui encore le propriétaire, mais c'est moi qui s'occupe de la gestion. Donc ça m'a un peu... pas tannée du domaine. C'est pas ça du tout, c'est pas le bon mot, mais j'ai comme un petit peu perdu l'espèce de flamme du funéraire parce que quand tu es gestionnaire, ben, tu pourrais être gestionnaire dans n'importe quoi. Ouais.
Tu gères des dossiers.
Exactement. Ouais. Puis souvent, ben, les dossiers que tu gères, c'est toujours les plus plates, malheureusement. Avec l'enseignement d'être confronté à des étudiants qui ont une soif de savoir et qui sont émerveillés par ce qu'ils apprennent et tout ça, j'ai comme fait, OK, là, je me souviens à la base pourquoi je faisais ce métier-là. Ouais. Ça m'a vraiment ramené aux bonnes places, à la bonne place au bon moment.
Avant qu'on parle de l'enseignement, parce que je pense qu'il y a un petit moment, on a mille questions sur comment tu transmets ça, justement, à des élèves. Tu as mentionné ta sœur, puis je t'ai dit qu'on est désolé pour la perte en passant, mais ça m'amène à réfléchir au fait que un thanatologue, est-ce que ça a peur de la mort, de ses proches ou de sa propre mort? Puis comment un thanatologue vit un deuil?
Est-ce qu'on a peur de la mort? Je pense que c'est différent pour chacun. Là. Il y a le concept aussi de la peur de vieillir et de tout ce qui vient avec. Mais pour ce qui est de ma sœur, tu sais, Valérie était très organisatrice, on va dire ça comme ça. Et je me souviens qu'elle, elle avait préparé tout dans les moindres détails. Là. Il n'y avait pas de place à l'imagination. Là. C'est elle qui a décidé comment ses funérailles allaient arriver au corps de tour, ce qu'elle allait porter, comment elle allait les signer.
C'est une gestionnaire dans l'âme.
Ah oui, on n'avait pas de place à l'imagination. Mais oui, quand ça nous arrive, là, malheureusement, là, on est les plus décousus, je pense. L'expression cordonnier mal chaussé, là, ça s'adresse à nous parfaitement parce que, justement, on sait... Il n'y aura pas de rencontre à la famille. Là, ce qui est la partie importante, qui est une espèce de noyau où tu leur expliques, tu fais les formalités légales et tout ça. Non, parce que ça, tu vas le faire à temps perdu au travers de tes autres choses. C'est ta famille, c'est tes choses. J'ai pas besoin que quelqu'un me raconte comment ça va se passer et quelles sont les démarches à faire. Mais on dirait que justement, parce que tout ça n'arrive pas, ça s'embrique bizarrement. Mais est-ce qu'on a peur? Bien, probablement, parce que honnêtement, là, moi, je peux dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont des confrères de travail dans le funéraire, et on est des gens qui vivent très intensément.
Puis vous, vous en occupez quand c'est un proche? Vous laissez pas ça à une autre maison funéraire?
Ça dépend de qui, puis ça dépend quelle partie. Moi, ma sœur, elle voulait être dans un cercueil, donc une thanatopraxie, et elle ne voulait pas que nous, à l'intérieur de l'équipe, on le fasse, parce qu'elle savait que c'est pas quelque chose qui est évident. Tu sais, c'est très... C'est comme un chirurgien à cœur ouvert opérera pas sa mère.
Ah, il y a des émotions.
Donc, elle, elle voulait pas. Donc, elle avait choisi dans les confrères qu'elle connaissait qu'elle voulait qu'elle s'occupe de son corps, qui était... c'est la maison funéraire, la Durantec, qui se sont occupés d'elle. Ils ont été super, là. Donc, ça nous a facilité au moins cette étape-là. Par contre, tout le reste, ben, c'est sûr que c'est nous qui le prenons en notre charge parce que en même temps, ça nous tient occupés. C'est au même niveau qu'une famille, on leur donne tellement de tâches à faire et à réaliser dans un peu de temps au moment où le décès arrive. Et ça nous tient, nous aussi, occupés, on a le cerveau qui travaille. Donc, du coup, ben, on a moins de temps aussi pour vivre nos émotions pendant ce temps-là. C'est après, on est comme tout le monde. Là. Moi, j'ai encore des moments où je la pleure, ma soeur, même si ça fait un an et demi, là, je suis tout à fait normale. C'est pas moins pire pour moi parce que c'est mon métier.
C'est ça que je me demandais, parce que tu fais tellement face à la mort qu'on dirait que tu finis par la... tu relativises, j'imagine, étant donné que c'est ton métier. Puis j'ai comme l'impression que, je vais appeler les gens normaux, là, les gens qui font pas face à la mort tous les jours, là, j'ai l'impression que, étant normaux, on n'a pas ces outils-là quand on a un deuil à vivre au début, tu sais. On n'a pas, tandis que quand tu grandis un peu face à la mort, dans ma tête, je me demandais si ça venait jouer sur ta façon de la vivre, tu sais.
Je pense qu'il y a peut-être des étapes qu'on acquiert plus rapidement. C'est souvent toute l'espèce de partie du déni puis de l'acceptance puis tout ça. Bien, nous, on n'a pas le choix d'arriver à l'acceptance plus rapidement parce qu'il n'y a pas de déni, là. On est très conscient que c'est ça parce qu'on l'a vécu à plusieurs reprises de par d'autres décès. Donc, quand ça nous arrive, tu sais, il y a certaines étapes. Et puis ça, d'ailleurs, ce qui est un concept et un principe psychologique face au deuil, où ils disent qu'il y a 7 étapes que tu vas passer dans le processus du deuil. Les spécialistes, au cours des dernières années, se sont beaucoup portés là-dessus, à dire que ce n'est pas nécessairement vrai et elles ne vont pas arriver dans l'ordre tel qu'on vous l'avait proposé parce que, justement, tout le monde étant tellement différent et unique, bien, vous allez le vivre à votre façon. Donc, c'est un peu la même chose pour nous. Là. C'est juste qu'on a peut-être des périodes où c'est plus facile de les vivre et de les accepter parce que c'est notre métier. Mais au total tout, on est identique aux autres humains. Là.
Dans le laboratoire, est-ce que vous êtes seul avec le défunt?
Ça dépend des établissements. Ouais. Il y a des laboratoires qui sont tellement gros, ils peuvent être plusieurs thanatopracteurs en même temps. S'il y a plus de volume ou encore dans... À Montréal, souvent, c'est des immenses laboratoires. Ils peuvent être 3-4 thanatopracteurs.
Ouais.
Pour la plupart, par contre, ça arrive régulièrement que le thanatopracteur va travailler seul.
Ouais. Là, je vais te poser des questions. Est-ce que vous écoutez de la musique?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous parlez au défunt?
Moi, oui.
Vous êtes plusieurs à le faire?
Oui, moi, je le fais parce que je sais qu'il ne me répondra pas. Là, c'est un peu ridicule. C'est parce que je ne veux pas oublier que c'est quelqu'un.
Ouais.
C'est pas un outil de travail.
C'est beau, ça.
C'est quelqu'un.
Fait que tu expliques exactement ce que tu vas faire à son corps.
Oui, souvent. Des fois, je vais dire, surtout s'il y a des étapes que je trouve qui ont l'air un peu moins agréables, je leur dis. Ce sera pas le fun, mais j'ai pas le choix parce que je vais vous mettre beau.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ces gens-là sont présents?
Je le sais pas. Pour vrai, j'avais cette impression-là peut-être plus quand j'ai commencé parce que, en plus, la maison funéraire était beaucoup plus vieille. Puis ouais. Beaucoup d'historique dans Baptiste. Oui, puis j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un par-dessus mon épaule qui me regardait. Alors que quand on a construit le nouveau complexe, c'est tellement gros, c'est tellement vaste, même le laboratoire, ça fait beaucoup plus laboratoire médical, ça a comme un peu perdu ça. Donc, je sais pas, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça, pour vrai, qu'il soit pas loin, puis qu'il se dise, hey, finalement, fais bien ça, puis il s'occupe bien de moi, tu sais, je suis content.
C'est quoi les étapes? Tu as parlé justement d'étapes, je suis comme curieuse de savoir. Curiosité morbide, là, mais je suis des comptes sur les réseaux sociaux de thanatologues, surtout du côté des États-Unis, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment au Québec qui documentent leur quotidien. Puis tu sais, ils nous montrent les produits bon, qu'ils vont mettre à l'intérieur du corps. Mais j'ai comme envie de savoir, de ta part, qu'est-ce que vous faites exactement avec un corps qui arrive?
La première chose, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étape là, qui est essentielle. Ça, le peu importe que la personne soit incinérée, ou qu'elle soit préparée, qu'il y ait une thanatopraxie, c'est l'asepsie générale du corps. Pour des raisons de santé publique, la première chose qu'on doit faire, c'est désinfecter la dépouille dans son entièreté. Donc oui, c'est sûr que les produits désinfectants qu'on utilise sont un peu plus forts que ce qu'on retrouve habituellement, sont conçus par des compagnies qui ne font que ça, des produits d'embaumement. Par la suite, une fois que la désinfection est faite, puis souvent on va commencer aussi pendant la désinfection à faire ce qu'on appelle le processus d'émassage. Parce que oui, le corps va se solidifier, va devenir plus rigide dans les heures qui vont suivre le décès. Et il peut avoir un paquet de facteurs pourquoi, et ça peut être à différents niveaux. Donc, pendant qu'on va justement le désinfecter, on va enlever ce qu'on appelle, nous, la rigidité cadavérique. Donc, on va plier les articulations, tout ça, dans la mesure où elles peuvent.
Faisant un massage?
Oui.
Ah ouais.
Parce que des fois, il y a des gens peuvent avoir été à mobilité réduite, qui n'ont plus de masse musculaire, peu importe. Alors, il faut vraiment respecter l'ensemble des articulations puis comment la personne va se mouvoir, comme elle le faisait. Puis savoir. Alors, c'est super important aussi d'avoir un certain bagage en biologie, en pathologie, en anatomie, parce que si tu lis ce qu'on appelle un SP3, qui est le constat de décès, qui doit être fait avant même l'entrée dans un laboratoire, en lisant le SP3, on va avoir un paquet de documents et de données là-dessus qui vont nous permettre de préparer autant nos fluides qu'on va utiliser et autant savoir justement est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, que je ne peux pas faire, que je dois faire et que je ne dois pas faire. Ça, c'est bien différent. Donc, c'est pour ça que ça prend quand même une certaine connaissance médicale. On n'est pas des médecins, on ne le sera jamais. Je peux pas les ramener, là, sous aucune condition. Mais je dois respecter ce qu'ils avaient comme condition pour pouvoir les amener plus loin et pour pouvoir préserver leur corps. Parce que c'est le but de la thanatopraxie, c'est la préservation et la protection de la santé publique.
Okay. Là, on retire les fluides?
Oui, une fois que le massage va avoir été fait, tout ça, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on doit avoir une connaissance du système vasculaire parce qu'on va vouloir injecter un produit de conservation au niveau du système artériel et retirer au niveau du système veineux les fluides corporels qui pourraient justement venir atténuer le processus de conservation. Donc, habituellement, bien, ça va se faire au niveau de la carotide jugulaire parce que ce sont les plus accessibles et ils sont proches du centre de distribution qui est le cœur.
Est-ce qu'on retire autre chose que les fluides chez le défunt?
On va retirer aussi le contenu des organes, mais tout reste en place. Moi, souvent, j'ai entendu ça là, longtemps. Moi, et ma soeur, on avait une émission d'information Info 800, je pense.
Ouais.
Les gens nous appelaient pour poser des questions. On en a eu là, on a eu des bijoux dans ces questions-là, très honnêtement. Parce que les gens ont dans leur tête de ce qu'ils connaissent aussi. Puis le processus de l'embaumement, les premières étapes viennent de la mythologie et ou même de l'Égypte ancienne. Donc, dans leur tête, on enlève les organes parce que c'est ce qu'ils faisaient pour la conservation. Hein. Ils enlevaient le cerveau, ils enlevaient tout ça en passant par le nez, par la bouche. Bon. Non, nous, on ne peut pas faire ça. Au Québec, la loi, elle est très claire.
Vous retirez ce qu'il y a à l'intérieur de ces organes.
Absolument. Okay. Tout ce qui est liquide biologique.
Parfait.
Parce que tous les morceaux du défunt doivent repartir avec le défunt.
Ben, je trouve pas ça si mauvais que ça, moi. Combien de temps le corps se conserve? Vous mettez des agents de conservation, mais c'est quoi la limite, là, dans le sens que si quelqu'un décède, on vous l'apporte, j'imagine qu'on peut pas faire les funérailles deux mois plus tard, là.
Ça, là, cette question-là, elle est très difficile à répondre parce qu'il y a autant l'aspect de la loi que l'aspect du corps. La loi au Québec, elle nous permet de faire une présentation du défunt dans les 30 premiers jours à cercueil ouvert sans qu'il y ait aucune problématique et tout ça. De 30 à 60 jours, il y a d'autres conditions qui nous sont imposées. Au-delà de 60 jours, là, on ne peut plus, il faut que le cercueil soit fermé. Est-ce qu'on pourrait le garder au-delà de 60 jours? Probablement. Mais encore là, ça dépend de la cause du décès. Parce que si c'est un corps qui aussi était gorgé d'eau, parce que il y a certaines maladies qui vont faire de l'édème dans des parties du corps, tout ça. Oui, nous, on va essayer d'assécher, on va essayer de drainer, mais c'est pas parfait. Mais c'est sûr que ces gens-là vont avoir une capacité peut-être à être gardés sur une moins longue période de temps versus il y a d'autres facteurs, il y a d'autres causes de décès. Aussi, est-ce que la personne, elle est plus jeune, elle est plus âgée, elle est plus mince? Il y a un paquet de facteurs qui fait en sorte que c'est difficile de pouvoir mettre un chiffre exact. Mais moi, je me souviens très bien. Moi, j'ai étudié en Ontario, j'ai travaillé en Ontario pendant un an. Et la loi, elle était différente là-bas et on a déjà gardé un corps jusqu'à 8 semaines pour que sa famille puisse le voir.
Oh mon Dieu, OK, quand même.
Est-ce que c'est vrai, pour avoir jasé avec quelques thanatologues là, dans ma carrière de radio, est-ce que c'est vrai que vous développez des talents d'esthéticienne, vous développez des talents de coiffeuse? Anciennement, de ce que je comprends, c'est que c'était une coiffeuse qui se déplaçait pour coiffer les madames. Mais là, maintenant, il y a certains thanatologues qui sont capables de tout faire de A jusqu'à Z.
Oui, et même les étudiants ont un cours là-dessus.
Ah oui.
On le voit un peu dans mon cours à moi qui est thanatopraxie. Moi, je fais thanatopraxie 2, thanatopraxie 3. On en parle, mais au niveau aussi de thanatoplastie, qui est les soins restauratifs, où on peut refaire autant un visage en cire, en latex, tout ça, s'il y a des blessures, s'il y a des déformités causées par des maladies. Ils vont voir toutes les techniques de maquillage. Ils vont voir aussi plus avancées techniques pour ce qui est au niveau des cheveux, mais aussi ça peut être la reconstruction capillaire. Là. C'est quelqu'un qui, par un accident, a perdu juste une partie de ses cheveux. C'est toujours au niveau du côté droit dans le front, qui est la partie où nous, on va voir le plus parce que c'est là que le cercueil est ouvert. Donc oui, on apprend à faire ces choses-là. On dirait que la vie est mal faite, hein? C'est tout le temps ça. Ils vont manquer le petit bout, là où c'est le plus visible. Là. C'est jamais le côté où on voit moins pour une raison que j'ignore. J'imagine que ça fait partie de la mauvaise loterie, ça aussi.
Est-ce que les deuils sont plus faciles lors de l'incinération ou lorsqu'on peut aller visiter le défunt à tombeau ouvert?
Ça, on se le fait souvent demander. Ça revient à ce que je disais d'entrée de jeu. Je pense que c'est propre à chacun. Oui, autrefois, on disait, faut le voir, sinon vous ne passerez pas à autre chose. Vous allez toujours avoir l'impression que la personne, la porte ouvre, vous vérifiez, on guette, est-ce que c'est lui qui arrive? Parce qu'il n'y a pas eu d'entre-deux. Surtout si le décès a été soudain, tragique, peu importe. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus, on passe à la crémation. Ça peut être moins évident. Mais des fois aussi, la raison pour laquelle les gens ne les reverront pas, c'est peut-être parce que les corps, c'est préférable qu'ils ne soient pas revus. Moi, je suis chanceuse, là, mon équipe, ils sont extraordinaires. Là. On a présenté des corps où le coroner avait dit sous aucune considération, personne ne va pouvoir voir ça, puis on était capable de le faire à cercueil ouvert, puis tout le monde a fait « wow ». Mais ça dépend vraiment de tous. Et maintenant aussi, avec un paquet de réalités qui sont différentes d'autrefois, juste ce qui est de l'aide médicale à mourir. Souvent, ils sont accompagnés. Il y a quelqu'un avec eux jusqu'à la fin. Ils ont fait une dernière toilette. Ils étaient présents. Ils l'ont vu décéder dans son lit, dans son environnement. Ils n'ont pas ce besoin-là parce que ça s'est fait autrement. Donc, c'est pour ça que moi, je dis là où on doit être flexible, c'est de ne pas imposer notre idéologie à notre clientèle.
Ça arrive-tu ça? Peut-être que ça ne vous est pas arrivé, là, mais... C'est vrai que je m'imagine bien, mettons, moi, si j'avais demandé l'aide médicale à mourir, probablement que je me coifferais comme je veux, je me maquillerais comme je veux avant de décéder.
Mais ils vont te laver pareil.
Mais oui, je me suis dit, ah, OK, ouais. Non, mais j'allais dire...
Oui, mais ils le font. Oui, absolument. Puis souvent, là, j'ai connu beaucoup de gens, même personnellement, à qui c'est arrivé. Et ils le disent, là, la personne, elle est contente, là, une dernière fois, même de se brosser les dents.
Ouais, ben oui.
Puis, est-ce que vous pouvez reproduire exactement ce que cette personne-là avait fait avant de décéder?
Ah, pratiquement, oui.
C'est oui, quand même fou, hein? Puis, est-ce qu'il y a des corps que vous ne pouvez pas réparer? J'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que vous êtes capable de le dire assez, de façon instinctive, à ça, on va être capable de reconstruire quelque chose? Ça, c'est complètement impossible.
Oui. Oui, ça, c'est sûr que oui, ça se fait, ça s'est déjà fait. Et même aussi, dans la mesure où on dit aux gens, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour vous le présenter, il faut toujours leur faire comprendre qu'il y a une possibilité que... Il y a une possibilité que ce ne soit pas parfait, il y a une possibilité que ce n'est pas ce que vous attendiez. Et peu importe ce que je ferai, de toute façon, vous allez toujours être déçus parce que vous vous attendiez à le voir parfait et vivant. Et ça ne sera pas le cas.
Thanatologue, vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Ève Garneau, propriétaire du groupe Garneau. C'est une grosse job. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on duty. Des fois, vous avez des congés au travers de ça pour vous reposer, mais ça se peut que le téléphone sonne, puis il y a des dossiers, des fois, que vous devez rendre le plus rapidement possible. C'est un métier de passionné. Ça peut gagner combien par année, un thanatologue?
Ça, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre parce que ça va beaucoup, beaucoup par région.
Ouais.
Et ça dépend aussi des milieux de travail. Est-ce que c'est une plus petite entreprise, une plus grosse? Est-ce qu'ils sont syndiqués? Est-ce qu'ils ne sont pas? Il y a tout ça qui entre parce qu'il y a vraiment trois catégories de maisons funéraires au Québec. Les indépendants, les multinationales et les coopératives funéraires. Donc, tout ça fait en sorte que tout le monde a des conditions de travail différentes. Par contre, un thanatopracteur qui débute dans le domaine, pour la plupart, dépendamment des régions, va faire probablement entre 25 à 30 $ de l'heure.
Qui okay. débute?
Oui.
Okay. Puis après quelques années, ben, c'est comme tout, les salaires augmentent.
Absolument.
Puis si le monde dépendait de moi, il me semble que je vous paierais cher en tabarnouche pour faire affaire avec ça au quotidien. Là.
Mais souvent, c'est l'impression que les gens ont parce que aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le décorum qui vient avec. T'sais, on a des belles voitures, on est toujours quand même bien habillé, on a tout ça. Bien, ça fait partie des avantages d'eux. Mais je veux dire, j'ai toujours dit, les Cadillacs qui sont dans le garage, ils appartiennent à la compagnie. Oui, la compagnie, jusqu'à moi, est à un certain point, mais c'est pas mon Cadillac. C'est pas avec ça que je me promène. Moi, je suis encore super fière de me promener avec ma New Beetle 98. Okay, tout le monde rit de moi, là, mais tu sais,
très nice.
Ça me représente, c'est correct, ça me va.
Domaine d'hommes ou de femmes aujourd'hui?
Ah, c'est une bonne question, ça.
Autrefois, c'est un domaine d'hommes. Quand mon père étudiait en 1967, il n'y en avait seulement qu'une femme et elle venait d'une lignée familiale. Je ne suis pas sûre qu'elle le faisait par choix. Quand ma sœur a étudié, là, on était déjà à au-dessus de 80 % de filles. Maintenant, dans mes classes, là, cette année, c'est sûr que c'était une petite cohorte. C'était nos premiers finissants là, à qui on a remis les diplômes. Ils sont partis 13. Sur 13, il y avait un garçon.
Wow!
Quand même. C'est comme les infirmières, en fait. Là. Il y a très peu d'hommes qui sont parmi les infirmières, un faible pourcentage. Puis, est-ce que c'est un métier, parce que là, les boomers, à un moment donné, ils vont partir, là. C'est un métier qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années, c'est clair. Là.
Oui, mais différemment. Parce que les gens au Québec ont beaucoup fait... On est dans ça dans plusieurs... truc confondu, là, et corrigez-moi si vous pensez que j'ai tort, c'est qu'au Québec, on est très drastique. Quand on décide que quelque chose est terminé, on flush tout ça. Alors, quand on a mis le catholicisme dehors, le processus des funérailles aussi s'est vu escamoter de façon considérable. Moi, ce que j'essaie de ramener aux gens maintenant, c'est que non, on n'est pas obligé de faire des funérailles avec un cercueil. Non, on n'est pas obligé de suivre tous les standards qui avaient été préétablis à l'époque par le phénomène du voisin gonflable, même dans le funéraire, ça allait exister. Ça, c'est vrai, c'est une bonne chose que ce soit révolu, que ce soit terminé. Maintenant, ce que je voudrais que les gens prennent en considération et qu'ils n'oublient pas, parce que c'est la tendance depuis quelques années, puis surtout depuis la pandémie, c'est le rituel funéraire. Beaucoup se sont dit, mais on n'a pas besoin de faire de funérailles, on va passer à d'autres choses plus vite. Ça, j'ai de la difficulté avec ça parce que, et puis ils vont dire après, je suis pour sa paroisse. Peut-être que oui. Sauf que le rituel funéraire, c'est le plus vieux rituel enregistré de l'histoire de l'humanité. C'est le seul duquel on a encore des preuves et des traces qui datent de la préhistoire. De prendre 5 minutes pour s'arrêter et de considérer que quelqu'un est mort et qu'on ne le reverra plus. Ils faisaient des fresques là-dessus dans des grottes. C'était ça leur rituel. Alors, quand les gens disent « on va passer à la crémation, on revient chercher les cendres, non, il n'y aura rien, merci beaucoup, bonsoir », ça me fait peur comme phénomène de société parce que ça n'a jamais existé.
Sandy nous écrit « Je suis totalement d'accord avec Marie-Ève Garneau. J'ai perdu ma mère à l'âge de 11 ans. Je suis maintenant âgée de 33 ans et j'ai toujours une impression qu'elle n'est pas morte. Elle avait 36 ans à l'époque. Elle attend toujours qu'elle revienne. » Parce qu'elle n'avait pas eu accès, justement, à ce rituel funéraire-là.
C'est spécial, pareil. Hein, comme ouais. Si elle était partie en vacances, puis beaucoup trop longtemps, dans le fond.
Et l'autre chose que je dis souvent, ça, c'est le commentaire que vous venez apporter de l'auditrice, là, je l'aime beaucoup pour une raison. Parce que peut-être qu'à l'époque, ils se sont dit, ben les petites, on va pas y faire vivre ça. Là, perdre sa mère à 11 ans, là, qui avait 36 ans, c'est tragique. Là. On va pas y faire vivre ça, elle n'est pas capable de. Ben oui, pas capable de, sauf qu'aujourd'hui, mais c'est une problématique. Et peut-être qu'on ne devait pas exposer son corps au public. C'est correct. Peut-être qu'elle ne voulait pas. Mais d'offrir un temps de recueillement en présence du corps avant qu'il soit incinéré, qui n'est pas une exposition publique, mais qui est quelque chose de privé, qui est un temps de recueillement seulement avec le corps où il est habillé dans les habits que vous avez choisis. Il n'y a plus de machine, même si c'est à l'hôpital. Là, moi, je me souviens, là, j'entends des fois encore les machines là, autour de ma sœur. De ne plus entendre ça, tout ça mis un dans l'autre, ça peut être bénéfique, je pense, pour ces gens-là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si justement il y a quelque chose de tragique et on ne peut pas le revoir le corps, ben moi, j'ai présenté des mains, j'ai présenté des pieds, parce que c'est des choses qui se reconnaissent. Je ne pouvais pas présenter le visage, mais ils ont vu, ils ont touché, ils ont pu sentir. La mort, c'est sensoriel. Ça passe par les cinq sens. Et là, quand je dis ça, le monde dit, non, tu ne le manges pas. Non, mais vous remarquerez que souvent, on a le réflexe des embrasser. Alors, il faut qu'on le sente, il faut qu'on le touche, il faut c'est qu'on vrai. Le voit, il faut qu'on s'approprie ce concept-là. Les enfants, c'est la même chose. Il y a moyen de faire quelque chose, même si le corps ne peut pas être revu. Et ça nous permet de s'approprier quelque chose. Comme je dis, probablement que cette fille-là, encore aujourd'hui, elle se dirait, ça a assez duré la farce, maman, j'ai hâte que tu reviennes. Mais au moins, elle pourrait dire, non, voyons, reviens. Reviens dans ton rationnel. Tu l'as vu, tu as vu quelque chose.
Souviens-toi.
C'est fait.
Oui. Le plus difficile pour toi, pour l'équipe, j'imagine que c'est les enfants.
Ça dépend. Et puis, parce que je dis toujours, un enfant qui souffle, là, c'est pas plus drôle que le reste. Là. Tous les décès tragiques qui sont inattendus viennent avec une histoire, avec une charge émotive. Les suicides aussi, on dirait qu'on s'y habitue jamais vraiment parce que tu te dis c'est une détresse qui est terrible, qui fait mal et qui fait mal à la personne qui est partie, qui fait mal à tous ceux qui vivent avec cette réalité-là. Nous, on voit ces familles-là démolies dans nos bureaux. Là. Ça, je pense qu'on s'habituera jamais. Mais je pense que c'est plus des histoires. Tu sais, moi, quand je rencontre une madame de 93 ans qui me dit « ça fait 70 ans qu'on est ensemble puis je l'aime encore autant que la première journée où il m'apporte une fleur sur le pas de la porte chez nous », je veux fondre en larmes. Je trouve ça beau. Donc, je pense que c'est les histoires plus que parce que on est capable de faire la différence entre il faut à un moment donné que la souffrance, elle s'arrête, puis c'est presque une délivrance. Là. Sachant même pas, tu sais, tantôt on parlait, est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas. J'aimerais ça, là, pour ceux qui ont souffert le martyr sur la terre, là, j'aimerais bien ça qu'il y ait quelque chose de beau après. Mais juste le fait de savoir que cette douleur-là s'est arrêtée, là, pour moi, là, ça, des fois, là, c'est très encourageant. Là.
Le groupe Garneau, c'est une histoire de famille. Donc, votre père utilisait des techniques qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'utilisez plus. Est-ce qu'il y a un futur, la thanatologie, que vous dites, OK, ça s'en vient, là, ça a déjà commencé dans certaines parties du monde. Puis à un moment donné, au Canada, cette nouvelle technique-là va arriver. Est-ce que vous devez vous tenir au fait des nouvelles techniques pour la thanatologie, les nouveaux outils, les instruments et tout ça?
Absolument. Et là, ce qui est agréable, c'est que justement, il commence à avoir de plus en plus de formations. Oui, il faut que tu payes pour, il faut que tu sortes souvent du Québec, il faut que tu ailles voir autre chose. Mais autrefois, moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je me disais, hey, mon Dieu, qu'on est voué à faire la même chose tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de chercheurs dans notre domaine, parce qu'il n'y a pas... Tu sais, un corps, ça va toujours s'embaumer de la même façon. Oui, c'est différent. Mon grand-père me racontait des histoires où lui avait vu son père embaumer dans les maisons privées sur la table de la cuisine.
Oui.
Avec une petite chaudière, puis c'est la gravité. C'est plus comme ça, merci. Mais dernièrement, je parlais avec un confrère, Vincent Fauché. Lui, il est extraordinaire au niveau de la thanatopraxie. Là. Il y a une entreprise indépendante qui ne fait que ça. Et il est allé en Belgique et il a regardé une nouvelle technique par rapport à l'injection plutôt de ça par le système artériel qui se ferait par la moelle épinière. Il me racontait ça, j'étais éblouie, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est encore très embryonnaire, je pense. C'est pas arrivé au Québec, c'est pas au Canada. Mais tu sais, quand même, il décrivait ça. Puis ça, j'étais là, hey, wow, juste le fait, je sais pas si ça va fonctionner, mais juste le fait que quelqu'un essaye de trouver quelque chose de nouveau puis de nous apporter ailleurs, c'est très, très encourageant. Là. Moi, ça me fait... j'ai beaucoup d'enthousiasme.
Ouais. Puis les trucs qui sortent de l'ordinaire, on va terminer avec ça. Avez-vous eu des demandes qui sortaient complètement de l'ordinaire? J'ai vu certains rites funéraires aux États-Unis où des gars qui étaient des passionnés d'Harley Davidson se faisaient exposer sur leur Harley Davidson. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de demande-là au Québec?
Oui, on a déjà eu ce genre de demande-là. Par contre, on ne peut pas.
On peut pas le faire.
Non, parce que dans la mesure où la loi dit que le défunt ne peut pas être exposé dans une position qui ne lui est pas propre. Alors, tu peux pas, étant un corps décédé, te tenir sur un Harley Davidson, donc tu ne peux pas. Ça, c'est la loi au Québec.
Okay.
Par contre, j'ai exposé des cendres sur une Harley Davidson dans mon salon.
C'est
parce
cool,
que le monsieur rêvait de sortir de Michel Sarrazin puis de faire un dernier tour de moto, puis il l'a pas fait. Et ça, ça rendait sa famille super triste. Alors, on a enlevé le porte. Urne. On a tout sorti, on a mis un faux gazon à terre,
Voyons donc.
A mis la Harley là, on a mis l'urne dessus, puis après la cérémonie, ils l'ont strappé, puis ils sont allés faire le tour de la ville avec. Là.
Wow, OK!
Ben oui, ça, c'est les funérailles les plus tripantes et qui coûtent le moins cher parce que c'est ses choses à lui.
Bon, ben c'est décidé. Moi, groupe Garneau, là, ils vont me faire une run d'Harley Davidson après
c'est
ma mort.
C'est donc bien hot.
Je trouve ça cool.
Marie-Ève, pour vrai, on n'aura pas le choix de se reparler dans les prochaines semaines parce que moi, j'ai encore tellement de questions.
Mais c'est tout sauf plate, le domaine funéraire. Puis c'est, je pense, la fausse croyance que les gens ont parce que, justement, c'est un domaine qui a été gardé caché, triste, sombre longtemps. Puis maintenant, on est tout sauf ça.
Groupe Garneau, thanatologue, groupegarneau.com pour les rejoindre. Marie-Ève, tu es une passionnée. Puis j'imagine que tes élèves, c'est la première chose qu'ils ont vue en toi, c'est que tu étais une passionnée prête à transmettre cette belle passion. Puis on les salue parce que j'imagine qu'ils sont même meilleurs. Tu sais, le prof, es-tu si bon que ça en entrevue radio? On va l'écouter pour après ça la juger. Ben, tu étais excellente. Je te souhaite de passer une belle fin de journée de congé.
Oui, merci.
Salut. 11h18, on s'arrête, on vient.